sera bienvenue dans cette émission. Deux drones armés ont visé les installations aéroportuaires de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, dans la province de la Tchopo, en début des soirées du dimanche 24 mai, avant d'être neutralisés en plein vol par les dispositifs de défense des FRDC. Cette intervention a permis d'éviter des conséquences potentiellement dramatiques, même si les circonstances exactes de cette attaque restent encore à élucider. Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée tendue lundi 25 mai dans plusieurs localités des territoires de Massissi et Rutshuru, au nord Kivu, au lendemain des frappes aériennes attribuées à des drones militaires. Ces attaques ont notamment visé Rubaya et Rumangabo dans un contexte de combats intenses qui se poursuivent depuis plus d'une semaine dans la région. Ces nouvelles attaques interviennent plus d'un mois après le 9e round de négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Montreux en Suisse. Les deux parties s'étaient accordées sur deux points, à savoir la libération des détenus et le déploiement imminent sur terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Quel est-il faire de cette situation? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons en ligne Bob Kabamba. Il est politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir Radio Capi, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Capi, ravi de vous retrouver.
Et aussi en ligne, Rigen Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur les Congo GEC en sigle. Bonsoir Rigen Miviri.
Bonsoir chef Guy, bonsoir aux co-débatteurs
et ici, aux auditeurs. Et ici au studio, Johnson Ishara Boutaragaza, il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente et il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Et bonsoir Johnson Ishara Boutaragaza.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir au professeur Bob Kabamba, bonsoir à Maître Rigen Muviri et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous, une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le trafic aérien a repris ce lundi à l'aéroport international de Bangoka de Kisangani dans la province de la Tchopo. Cela intervient après des attaques par des drones ou des missiles présumés signalés ce dimanche soir par des sources aéroportuaires et interceptées par l'armée. Selon certains témoins, malgré la psychose, les activités se poursuivent sur les tarmacs. Ces informations collectées par Jacques Mokonkole sont rendues ici par Élisée Chikota.
Selon des sources concordantes, la nuit a en effet été particulièrement agitée à Kisangani. Après les alertes de la ville, les attaques contre l'aéroport de Bangkok se sont multipliées plus tard pendant environ une heure. D'après plusieurs sources aéroportuaires, au moins 6 projectiles présumés décrits comme des missiles guidés par système laser ou des drones auraient visé les sites de l'aéroport de Bangkok. La même source affirme que ces engins auraient été neutralisés par le système de défense des forces armées de la RDC. Cette série d'attaques nocturnes a fait suite à une première attaque signalée dimanche en fin d'après-midi contre les installations aéroportuaires. Selon nos sources sur place, ces premières frappes auraient causé quelques dégâts mineurs, notamment sur certaines antennes et un dépôt. À ce stade, aucune source officielle n'a confirmé la nature exacte de ces attaques, ni l'origine des tirs présumés. Les autorités de l'armée n'ont jusque-là publié aucune communication sur les auteurs ou les circonstances de ces incidents.
Merci à vous, Élisée Chikota. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est restée tendue lundi dans plusieurs localités des territoires de Massissi et Rutshuru. C'est au lendemain des frappes aériennes attribuées à des drones militaires visant notamment Rubaya et Rumangabo. Toutefois, aucun bilan humain officiel n'est disponible à ce stade. Selon plusieurs sources, ces attaques interviennent dans un contexte de combats intenses opposant depuis plus d'une semaine la rébellion de l'AFC M23 à une coalition des groupes Wazalendo alliés au FRDC dans les territoires de Massissi. Les détails avec vous, Alain Irung.
À Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, une frappe survenue vers 7h30 a touché dimanche un bâtiment abritant un centre de formation destiné aux femmes et veuves des cogardes de l'ICCN situé dans l'enceinte du parc national d'Evirunga. Des dégâts matériels importants sont signalés, sans pertes humaines confirmées, selon nos sources. Quelques heures plus tôt, aux alentours de minuit quart, une autre frappe a visé une maison d'accueil dans la cité minière de Roubaïa, dans le territoire de Massissi. À ce stade, aucune communication officielle ne précise le bilan humain de cette attaque dans un établissement qui hébergerait plusieurs personnes. L'origine des drones reste indéterminée, aucune des parties impliquées dans ce conflit n'ayant revendiqué ces frappes. Ces bombardements surviennent alors que les affrontements se poursuivent sur plusieurs axes stratégiques de Massissi. Après la reprise de certaines localités du secteur de Katoy par les Wazalendo, les combats se concentrent depuis le week-end sur l'axe Kini-Gichugi en direction de Roubaïa. D'autres échanges de tirs sont également signalés entre Nyakigano et Kasake en direction de Ngungu.
Merci à vous, Alain Irung. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. C'est quoi votre lecture de ces attaques des drones?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis quand même un petit temps, nous arrivons à avoir un point zéro. C'est-à-dire qu'on a eu un accord de cessez-le-feu, un accord qui a été signé à Genève, pour lesquels on n'a même pas des résultats par rapport à ce qui est sur le terrain. Alors, ce qui va être en train d'arriver, c'est que de part et d'autre, tout le monde s'est renforcé. N'était pas renforcé, non pas au niveau politique ou diplomatique, etc., mais ils se sont renforcés au niveau sécuritaire. Du côté FRDC, gouvernement congolais, on a vu l'arrivée des instructeurs mercenaires et renforcement de la dynamique de commandement au niveau des FARDC en vue d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un coup de force qui va arriver à mettre KO la rébellion en face. Alors, du côté de la rébellion, qu'est-ce qu'on constate? On a vu qu'ils se sont renforcés, eux aussi. Au niveau des ressources humaines, ils ont recruté, formé, et les chiffres que j'ai diffusés par l'AFC M23 parlent aujourd'hui de plus ou moins 42 000 hommes formés et prêts au combat. Et donc, vous avez une situation de stabilité de cessez-le-feu qui ne dit pas son nom. Et donc, de deux côtés, on se renforce. Donc, chacun maintenant est en disposition de dire, je peux donner l'escatode finale pour pouvoir arriver à l'objectif que je me suis fixé. Malheureusement, c'est là où on est en train d'arriver, où chaque partie maintenant essaye de tester l'autre pour voir quelles sont les capacités des uns et des autres avant d'engager ce qu'on pourrait appeler la bataille finale.
Oui, professeur.
On en est là.
Oui, voilà.
Et ça se passe dans... Excusez-moi.
Allez-y.
Ça se passe dans un premier temps au niveau des drones. Pourquoi au niveau des drones? Parce que c'est les drones qui sont l'indicateur qui permet de voir un peu les défenses des uns et des autres. Alors, s'il y a des drones qui viennent de Kisangani vers la zone de la rébellion, il y a aussi des drones qui viennent de la zone de rébellion vers Kisangani. Et on est en train de tester les uns les autres avec les deux équipes pour vérifier en disant quelles sont les capacités de résistance qui sont en face. Et en fonction de ça, on définit et nous aurons ce qui va suivre.
Et donc, l'objectif de ces attaques mutuelles, c'est de tester les capacités des deux parties.
Exactement, tester les capacités des deux parties. Parce qu'avant, dans tous les systèmes de sécurité, avant de porter l'escatode finale, vous devez d'abord tester les capacités de l'adversaire. Alors, une fois que vous savez qu'est-ce que l'adversaire a, je peux essayer, pas essayer. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train d'assister. Alors, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps aussi, que nous avons vu que la FC-123 s'est reculée de Sangé jusqu'à Katogota, en respect de l'accord du 4 décembre entre les États-Unis, Rwanda, etc., par rapport à Genève. Et donc, clairement, oui, c'est la situation qui est stabilisée.
Mais maintenant, c'est intenable, aussi bien pour la rébellion que pour le gouvernement congolais et les FADC, de rester dans cette situation qui est intenable. Il faut qu'il y ait une issue.
Voilà,
et l'issue ne doit être que la bataille finale.
Ok. Professeur, ces attaques interviennent au moment où on continue, n'est-ce pas, d'attendre la mise en œuvre, n'est-ce pas, des deux protocoles sur lesquels le gouvernement congolais et l'ASM 23 se sont convenus à montrer en Suisse. C'était le 17 avril dernier. Les deux protocoles, à savoir la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les partis n'arrivent toujours pas à mettre en œuvre ces deux protocoles?
Je vous ai rappelé la fois passée, quand nous avons eu une autre émission sur ce sujet, de vous avez dit que ces accords ne seront jamais mis en œuvre.
Pourquoi?
Ce sont des accords uniquement qui servent à faire une pause pour que chacun se prépare à la suite. C'est comme si vous êtes sur un terrain de ring, vous avez eu un premier round, et puis vous avez eu le gong qui dit que non, vous devez vous arrêter un petit peu. Et puis quand vous vous arrêtez un petit peu, chacun reprend des forces, et puis après vous devez revenir sur le ring. Les accords de Genève, c'est exactement ça.
Et
donc on fait une pause, et puis chacun ne croit pas, personne ne croit à ces accords. Je vous l'ai dit la fois passée.
Et donc,
il n'y a pas de libération. Le mécanisme de cesser le feu d'observation n'est pas mis en œuvre. Le financement, il n'y a pas de financement. Et alors, comment voulez-vous qu'un tel accord soit mis d'accord? Par ailleurs, en plus, vous oubliez la chose. La ratification de ce texte, il n'est même pas encore effective. Mais alors, comment voulez-vous qu'on puisse arriver à une mise en œuvre d'un texte qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas mis en œuvre, qui n'existe pas dans le système juridique congolais? C'est pas possible. Et donc, comme les accords du 4 décembre n'existent pas, ce n'est qu'une pause, que tout le monde se soit mis d'accord, et on reprend les hostilités.
Et donc, pour
c'est
vous,
ce qui va se passer.
Donc, pour vous, professeur, les processus des Doha n'est qu'une simple diversion?
C'est une... En fait, c'est ce qu'on appelle, en termes de négociation, l'objectif est d'essayer de chercher à avoir un cessez-le-feu pour transformer un conflit sécuritaire en conflit politique. Et du côté congolais et du côté de la rébellion, ils ne veulent pas transformer le conflit sécuritaire en conflit politique. Ça doit rester sécuritaire. Doha, Genève et tout le reste ne sont que des instruments pour essayer d'amener le dossier du sécuritaire au politique, tandis que les belligérants n'en veulent pas. Et donc, on est au point de départ. Et nous attendons, effectivement, après les escarmouches que nous sommes en train d'assister, nous allons voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur les Congo, GEC en sigle. Le dimanche, des sites stratégiques font l'objet des attaques par des drones militaires au moment où l'attention, n'est-ce pas, de toute l'opinion congolaise était focalisée sur cette épidémie d'Ebola. Quelle est votre lecture de cette escalade subite, Rigen Miviri?
Déjà, je vais nuancer un peu. Je ne pense pas que c'est une grande escalade, étant donné qu'elle avait déjà commencé, d'ailleurs, au sud Kivu, dans la zone de haut plateau. Il y avait aussi des affrontements déjà dans les Rutshuru et dans le Masisi. Donc, c'était moins vulgarisé, moins diffusé, mais il y avait des affrontements. Il n'y a jamais eu de, comme on l'a dit, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Donc les affrontements avaient continué. Mais bien sûr, pourquoi on en parle? C'est parce que des sites stratégiques ont été encore attaqués, notamment l'aéroport de Kisangani et de l'autre côté à Rumangabo, qui est aussi un camp important pour le M23, où passent d'ailleurs les cadres politiques et militaires de ce mouvement.
Oui.
Par contre, je suis d'accord qu'il y a une intensification de l'utilisation des drones. Mm-hmm. Depuis le début de l'année, bien sûr, les drones existent, mais là, on voit une intensification de leur utilisation. Et on voit aussi que de plus en plus, les deux parties se dotent des moyens aériens sophistiqués et performants. On avait tout simplement documenté des drones venant du M23 ou disons qui ont été revendiqués par le M23 que sur les attaques de l'aéroport de Kisangani. Mais aujourd'hui, on a aussi documenté l'utilisation des drones sur le front sud, notamment dans le haut plateau autour des Kinembwe. Donc, c'est devenu en fait, en quelque sorte, l'autre étape de cette guerre qui est devenue la guerre des airs. Et on peut en faire une analyse. Probablement, c'est parce que on veut, notamment du côté du M23, on veut montrer que la RDC n'a pas le monopole de l'espace aérien, qu'eux aussi, ils peuvent se projeter dans l'espace aérien contrôlé par le gouvernement congolais. Et d'autre part, ils essaient de montrer qu'ils peuvent essayer de sécuriser des zones qu'ils contrôlent, notamment les zones de Minembwe, où, de plus en plus, eux aussi, ils rétorque avec des bombardements de drones. L'autre élément que je peux ajouter, je pense que c'est encore une fois l'implication de l'armée rwandaise, parce que vous savez que c'est des systèmes très sophistiqués, que ce soit pour leur acquisition que de leur utilisation. Donc, on ne peut pas penser qu'il s'agit juste d'un mouvement qui est capable de les acquérir et de se projeter sur des si longues distances. Donc, encore une fois, l'implication du Rwanda nous semble encore détail dans cette escalade. Et ensuite, peut-être l'autre élément qui peut expliquer ceci, c'est le fait que Doha et ensuite Montreux a atteint, disons, le plafond de verre. Donc, il est difficile d'aller au-delà de ces deux protocoles qui, bien sûr, ça a été rappelé ici, n'ont pas de mise en œuvre non plus, d'ailleurs. Mais les six autres protocoles auront même difficile à être discutés parce que les personnes qui sont autour de la table ne sont pas forcément les bonnes personnes pour en discuter. Donc, Doha et Montreux a élargi les matières sans élargir la table. Donc, je vois mal que aujourd'hui le gouvernement et l'M23 puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter de la forme de l'État congolais, de changer par exemple la forme de l'État congolais d'en faire un État fédéral. C'est au-delà de leurs compétences, c'est au-delà de leur légitimité, si t'en as d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est aussi cela, le fait que, et même sur le côté diplomatique, il y a des blocages, il y a des limites à ce qui peut être fait, que ce soit à Montreux ou d'ailleurs à Washington.
Et comment vous expliquez le fait que les deux protocoles sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord récemment à Montreux en Suisse ne soient pas mis en application? Pourtant, de l'avis de beaucoup d'experts, ce sont les protocoles les plus faciles parmi les huit en discussion dans le cadre du processus de Doha. Qu'est-ce qui est difficile pour appliquer ces deux protocoles Rigen-Miviri? La libération des détenus et la mise en place des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui est difficile?
Rien n'est difficile sauf la volonté des partis. Donc, c'est les partis qui ne veulent pas faire la mise en œuvre. Peut-être qu'ils considèrent que ce n'est pas dans leur intérêt de faire la mise en œuvre. Pourtant, on pensait tous que ça pouvait aller très vite, ou peut-être qu'il y a un intérêt politique dans le statu quo. Donc, en réalité, le statu quo signifie quoi? Signifie que celui qui a à Goma continue à être à Goma et celui qui est à Kinshasa continue à être à Kinshasa. Et puis voilà, tout le monde va blâmer la guerre pour ses faiblesses, que ce soit des faiblesses de gouvernance et tout ça. Donc je pense dans une certaine mesure, il y a peut-être un point commun, pour ne pas dire intérêt d'attente entre les partis, de continuer à parler et jouer le pendule et la situation sera en train de se développer sur le terrain. Voilà. Et par contre, le terrain peut amener à une plus grande escalade, même si moi je serais plus nuancé que le prof sur le fait que l'on puisse envisager un assaut final. L'assaut final signifierait quoi? L'assaut final signifierait que le F-23 essaie d'aller jusqu'à Kinshasa, ou bien l'assaut final pour du côté du gouvernement, ça serait d'essayer de récupérer Goma. Bon, je ne pense pas qu'il y ait volonté, et peut-être même que les gens soient prêts à aller jusque-là. Donc, je doute que le M23 ait vraiment la volonté d'aller jusqu'à Kinshasa. Peut-être certaines personnes parmi les acteurs de ce côté-là le voudront, mais je doute vraiment que ça soit quelque chose de prévu, de pensé, et que c'est envisagé ou qu'on s'est donné les moyens pour cela. Donc, bien sûr, on a vu beaucoup de choses qui se sont développées dans ce pays, où voilà des escalades qui ont eu lieu sur base du terrain ou de réalité du terrain. Mais pour l'instant, je serai prudent.
Merci. Merci, Johnson Ishara Boutaragaza. Vous êtes acteur engagé dans la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. C'est quoi votre lecture de cette situation sécuritaire sur le terrain?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je voulais avant tout m'acquitter d'un devoir, c'est lui de rendre hommage d'abord à tous les habitants de Goma qui sont au-delà déjà du calvaire qu'ils traversaient. Ça s'ajoute également ce mésir sanitaire qui vient encore de les enfermer dans cette ville parce que voilà, ils n'ont plus accès à l'axe Butembo-Beni, ils n'ont plus accès à la traversée vers le Rwanda. Ça devient très complexe. Et quand on parle des territoires plus proches, c'est-à-dire en termes des ravitaillements, nous avons le Rutshuru et Masisi, et là on est en train de parler déjà des affrontements en cours. Ça veut dire qu'il y a des axes aussi dans ce même territoire qui sont coupés de la ville de Goma. Ça reste l'axe Bukavu-Goma avec les lacs et Idjui. Donc vraiment une pensée pieuse à tous ces habitants. Je ne sais pas, c'est énorme comme calvaire que les habitants de Goma sont en train de traverser, mais je reste convaincu qu'ils vont finir par s'en sortir, et bien entendu. Alors, quelle est l'analyse? C'est vrai, tout en faisant mienne certaines analyses partagées par mes prédécesseurs ici, il y a une question qui est revenue. Je pense que l'usage des drones, on l'a remarqué, que au niveau de Kisangani, et la question qu'on se poserait, pourquoi ces drones attaquent Kisangani? Pourquoi ces drones attaquent aujourd'hui Rumangabo et Rubaya? Et quand on parle encore de drones, on n'oublie pas l'axe Gungu, l'axe Ngungu, et après l'axe Ngungu, il y a également l'axe là où Numbi, là où il y a également, nous sommes dans le territoire des Calais. Donc on comprend que pour d'abord, pour l'ennemi, pourquoi attaquer Kisangani? Bien entendu, parce que pour l'ennemi, et tout
toutes les informations qui sont à leur possession, ils disent que c'est là que la menace aérienne se trouverait par rapport à l'Air Force. Et donc, il faut étouffer cette menace aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, bien qu'ils n'ont jamais réussi et j'espère qu'ils ne réussiront pas. Donc, on comprend que l'objectif de ces drones Sirki Sangani, c'est de chercher à étouffer une force des FARDC et la force aérienne. La bonne question ici, c'est de voir également le drone qui attaque Rubaya. C'est quoi également l'objectif? Oui, il y a un objectif qui est clair, mais la bonne question va se poser maintenant sur les cibles. Alors, du point de vue objectif de la zone, oui, on sait que pour le moment, il y a une exploitation de minerais qui est en train de se faire sous forme vraiment d'esclavagisme. Vous êtes en train de relayer les informations tout le jour, combien de gens sont en train d'être engouffrés sous le sol et il n'y a même pas de machine, il n'y a même pas de sauvetage pour le faire sortir. Donc, les créseurs sont en train de se perdre là parce qu'on les force d'aller au-delà de leur capacité de production pour que le Rwanda et tous ceux qui sont à Goma puissent avoir ces matières en quantité. Donc, du point de vue, c'est ce qu'on appelle également les efforts de guerre, du point de vue cette production-là, il y a également ces produits qu'on est en train d'extraire de Rubaya et qui est en train de faire du gain pour ceux qui contrôlent Goma. Alors, est-ce que le gouvernement de Kinshasa aimerait étouffer ces gains-là? Oui, parce que si c'est étouffé, ça va bien circuiter une machine financière au niveau du Nord Kivu. Et comme ça n'arrive pas à répondre à tous les efforts de guerre aujourd'hui, parce que chaque guerre a son prix, prendre en charge... Si je m'éteignais seulement au nombre que le professeur Bob Kabamba venait de donner ici, qui est quand même exorbitant, avoir tous ces gens-là, je pense que c'est énorme pour une rébellion qui serait seulement dans des provinces et qui n'ont pas encore le contrôle de toutes ces des provinces. Donc, si, prendre d'abord en charge tous ces hommes, c'est déjà un problème. Et sachant que derrière, c'est vrai qu'il y a des acteurs directs, il y a des acteurs indirects. Les acteurs indirects, c'est tous ces gens-là qu'on ne voit pas, mais qui financent dans l'ombre cette guerre et qui aimeraient que, à tout prix, que tout ce qu'ils ont eu à investir puisse leur revenir. Donc, si on arrivait à étouffer, et c'est ces schémas qu'on vous allez voir, Numbia également de minerais, Arubaya il y a également de minerais, Ngungu il y a également de minerais, et le M23 avait tout fait pour déployer son arsenal militaire et ses racines que le contrôle est là. Alors, mais si vous avez maintenant la géographie, connaissant bien ces axes, vous avez un front qui se déclenche à Kinigi, vous avez un front qui se déclenche vers Ngungu, ça veut dire que Rubaya se trouve au milieu. Et c'est ce qui a fait à ce que le Rwanda, sachant qu'il y avait beaucoup de possibilités de perdre cette localité, le Rwanda a encore une fois renforcé les effectifs dans ces axes-là. J'ai réitéré également ce que M. Rigen Miviré a dit. Oui, le Rwanda a renforcé encore en termes d'effectifs pour que voilà la force qui venait du côté FARDC, du côté Ouazalendou, puisse être contenue à un certain moment et la situation reste tendue jusqu'à ce niveau. Donc, du point de vue, la grande problématique aujourd'hui, ça se pose maintenant du point de vue de la cible. Comme je le disais, quand on attaque Rubaya, nous sommes de cette province et on aimerait bien être quand même très regardant sur les opérations. Et on en parle aujourd'hui, mais récemment, il y a eu encore d'autres drones, d'autres frappes dans le territoire de Masisi. Et est-ce qu'on se perd du point de vue cible? Parce que quand on rentre seulement sur votre papier, zéro dégâts humains. Alors, c'était quoi la cible, au fait? Est-ce que c'était seulement bombarder cet hôtel dans le parc? Est-ce que c'était seulement bombarder cet hôtel au niveau de Rubaya?
Est-ce que les forces et les faiblesses des adversaires, des ennemis,
ouais, mais
comme l'a dit le professeur Bob Kabamba?
Non, moi je ne pense pas qu'on soit dans une étape de test. De part et d'autre, il y a des services de renseignement. Et on s'imagine que les services ont toutes les informations nécessaires. Et cette guerre ne commence pas dans ce mois de mai, Monsieur Guy. Ça fait déjà 3 ans.
Oui, mais à votre avis, le fait que les attaques n'ont pas été revendiquées, ça peut signifier quoi? Les deux parties ne veulent pas assumer leurs actions?
Non, ça veut dire que les deux parties ont décidé de prendre tout le monde, d'héberner tout le monde. Parce que quand ça leur arrange, ils revendiquent. Quand ça ne les arrange pas, ils se taisent. comme s'ils étaient dans un monde à part entière, différemment du monde dans lequel nous sommes. Mais au moins, on sait, on peut, même si ça ne se revendique pas officiellement, il y a des revendications officielles. C'est vrai qu'on va s'éteindre sur les revendications officielles. Je pense que c'est une manière également de l'acheter de part et d'autre. Eh bien, si vous avez largué des frappes sur l'aéroport de Kisangani, bien c'est très important que à partir de Goma vous puissiez revendiquer ça. Si vous ne revendiquez pas ça, est-ce qu'on doit attendre que Kigali puisse revendiquer ça? Mais ici, s'il y a également des frappes de drones à partir de Rubaya, et récemment c'était même dans la ville de Goma, et il y a également dans le parc de Virunga. Alors, si personne ne revendique, alors on va laisser. Vous savez que la nature a horreur du vide et ça ne traîne pas dans une situation de guerre. Donc il y a toujours des preuves qui peuvent insinuer que cette menace vient de tel. Donc il y a cet aspect-là, et c'est pour cette raison que quand j'étais encore dans cette émission, j'avais dit les accords qui sont signés. Ça serait très important, Monsieur Guy. Est-ce qu'on peut demander une fois l'Assemblée nationale, les Sénats, les députés, de faire un effort de se considérer comme des députés? Parce que dans un pays sérieux, dans une démocratie sérieuse, où on a une chambre haute, une chambre basse, dans une situation de crise sécuritaire, de crise humanitaire qu'on est en train de traverser, on sent que ces deux chambres sont quasi inexistantes. Parce que déjà, quelle serait la réponse qu'on accorderait après Washington? On a dit cesser les faits, mais le fait n'a jamais été cessé, ce qui est vrai. Alors, on parle des libérations de prisonniers, si on a endossé, bon, mais pourquoi on ne le fait pas? Bon, de l'autre côté, on a des attaques, mais est-ce qu'on s'imagine, on s'imagine que quand on frappe des zones comme ça, il y a des conséquences. Parmi les conséquences pendant cette période, c'est que vous allez faire à ce qu'il n'y ait pas activité scolaire et que les enfants sont en pleine épreuve. Et ces enfants et leurs parents, ils ont envoyé des élus pour aller les représenter. Pendant ces temps, nous sommes dans une situation d'épidémie. Ça veut dire que ça va créer encore un mouvement de masse. Au même moment, vous voulez lutter contre l'épidémie. Au même moment, que ce soit à Goma, que ce soit à Kinshasa, vous êtes conscient de cette menace. Vous créez une situation qui va pousser à un mouvement de masse, c'est-à-dire la propagation de cette épidémie. Qu'est-ce qui serait caché derrière ça? Et à côté de ça, on va encore alourdir, Monsieur Guy, la crise humanitaire. Les gens sont en train de manquer quoi manger dans ces entités-là. Est-ce qu'on se rend compte? Alors, quand on déclenche encore une autre situation comme ça, ça veut dire qu'on manquait à manger, mais on vous met encore sur la voie des déplacés. Et quand vous allez être encore dans cette voie, c'est-à-dire que même l'eau vous en manquerait, même des crachants vous en manquerait. Donc ça, or nous sommes dans une situation, que ça soit Goma, que ça soit Kinshasa, il fallait, comme ils ont décidé enfin, de se trouver sur une table et de parler, ça veut dire que de venir maintenant pour trouver des solutions au problème de ces habitants qui tous se revendiquent défendre. Mais on ne peut pas dire une chose et faire son contre-rôle pour le moment. Et c'est ce qu'on est en train de voir malheureusement.
Les statu quo auxquels on assiste seraient consécutifs au fait que les deux parties n'ont pas la volonté de mettre fin à cette situation de guerre, comme l'a dit Rigen Uviri et aussi le prof Bob Kamamba.
Je pense que le statu quo, vous avez suivi le président de la République dans sa conférence de presse, il a dit qu'il ne sait même pas à quand cette situation va prendre fin, il n'y a que Dieu qui sait. Je pense que c'est pas Dieu qui dirige, il y a un homme qui dirige, bien que Dieu, c'est notre être suprême et qui a prêté serment à défendre le pays. Vous avez suivi également ce que le ministre des Communications a dit, qu'il faudrait que le Ebola, pour qu'il y ait riposte dans ces zones-là, il faudrait que le 1-23 puisse quitter, comme si Ebola vient également sur la table des négociations, que pour que nous venions, vous devez quitter. Donc, il faut quand même s'assumer. Et dans cette situation, le statu quo, ça profite de part et d'autre. On a l'impression comme s'il y a un arrangement de dire, voilà,
un arrangement tacite.
Oui, on se bat, mais chacun reste là où il est.
Mais quel intérêt le gouvernement congolais aurait à entretenir cette situation de guerre?
Justement, c'est ça la grande question que le comité de Montel se poserait. Mais vous savez, encore une fois, ce sont des questions gérées politiquement. En politique, des intérêts parfois ne sont pas mis sur la table. Mais l'enjeu qui serait toujours dans le riz pour les analystes, c'est de dire, est-ce qu'on est en train de jouer à la montre Parce que déjà là, on est en 2026, et on est au mois de juin bientôt, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 5 à 6 mois pour finir 2026, on commence 2027. Et vous avez vu que sur les lèvres de toutes les plateformes politiques, de l'Union sacrée, comme de l'opposition, que je dénonce ici, tout ce qui leur intéresse, c'est la Constitution et 2028. Donc tout ce qui est en train de se passer là, c'est comme si ça ne les concernait pas. Ça devient comme Kinshasa, tout le monde dort et se réveille, il n'y a pas de problème. Et pourtant là, il y a des familles qui sont en train de mourir, il y a des gens qui n'ont plus, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'aéroport, les frontières sont fermées, il n'y a pas d'accès pour bouger. Donc il fallait
plutôt... Et l'épidémie qui s'ajoute.
Et l'épidémie qui s'ajoute, on devait avoir des hommes normaux qui devrait manquer du sommeil à Kinshasa pour imaginer comment trouver des solutions à tous ces problèmes.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs de pouvoir donner leur point de vue. Professeur Bob Kabamba, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Bonsoir la radio de la paix, moi c'est Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville province de Kinshasa. Ces attaques montrent que la RDC est en train d'entrer dans une nouvelle phase du conflit, plus dangereuse, plus stratégique et technologiquement plus avancée avec l'usage des drones. Ce qui inquiète davantage, c'est les contrastes entre les discours de paix à la table des négociations et la réalité des bombes sur le terrain. Pendant que les accords parlent du cessez-le-feu, les combats, eux, continuent de s'intensifier. Cela soulève une grande interrogation. Les négociations avancent-elles réellement vers la paix ou servent-elles simplement à gagner du temps pendant que la guerre se réorganise?
Professeur Bob Kabamba,
c'est vraiment une question qui vient d'être posée et je dois confirmer par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Ces différentes négociations, discussions ne sont pas des discussions pour ramener la paix. Ce ne sont que des discussions pour qu'elles ralentissent par rapport aux objectifs des uns et des autres. Les uns veulent en finir avec la rébellion et les autres veulent en finir avec le régime de Kinshasa. Ça, ce n'est que ce qu'on appelle les revendications. Mais par rapport aux moyens, c'est une autre chose. Et là, clairement, je me suis dit uniquement au niveau des revendications. Pas au niveau des moyens. Est-ce que Kinshasa est en mesure de reprendre Goma? Est-ce que Goma est en mesure de reprendre Kinshasa? Ça, c'est une question des moyens. Je me limite uniquement au niveau des revendications. Sur le niveau des revendications, c'est clair. Il n'y a même pas à discuter. Kinshasa veut tuer Goma. Goma veut tuer Kinshasa. Alors, quand vous avez ça comme revendication, et que vous voulez vous asseoir sur autour d'une table, comment voulez-vous que ces deux points de vue soient conciliables? Ce n'est pas conciliable. Et donc, on assiste à ces va-et-vient, et qu'on en signe des histoires qu'on n'applique pas, et qui ne sont même pas ratifiés. Et donc, on est là comme si on était dans un feuilleton ou dans les maboquets, où on signe dehors, et puis à l'intérieur de la maison, on a signé, je réunis ma signature, mais on continue la guerre. Et je voudrais revenir sur une pointe. Pourquoi est-ce que la guerre devient un enjeu rentable d'un côté comme de l'autre? À Kinshasa, vous devez savoir que le gouvernement congolais a mobilisé des moyens par rapport à la guerre. Et nous, on sait très bien que le régime de Kinshasa, c'est un régime de prédation. Beaucoup de rapports l'ont dit, que ce soit le Banque mondiale, le FMI, les ONG, l'Union africaine, beaucoup d'ONG disent que Kinshasa est un régime de prédation. Et comment on a dit de prédation? Si on a la possibilité de prendre des ressources parce qu'il y a la guerre, ok, je vais continuer à faire la guerre. Parce que je vais continuer à prélevoir et à m'approvisionner, à prendre les ressources qu'ils ont disposées par rapport à la guerre. Ok, du côté de la rébellion, c'est la même chose. Nous devons mobiliser les ressources pour nous défendre par rapport à ce que ça. Et donc, tout ce qui peut être disponibilisé par rapport aux ressources doivent servir à ça. Et tout ce qu'on est en train d'assister dans les zones occupées par la rébellion, problème de ressources financières, problème d'avoir accès à des ressources pour manger, etc., parce que tous les systèmes ne fonctionnent pas, parce que l'essentiel des ressources va à la guerre. Et quand on voit dans cette dynamique, donc et du côté du gouvernement de Kinshasa, et du côté de la rébellion, ils veulent faire la guerre. Et alors, vous pensez que vraiment que les négociations vont arrêter ces revendications?
Merci.
Il faut être véritablement naïf pour y croire.
Merci.
On est dans les négociations depuis 2 ans. Et quelle est l'avancée? Zéro. À part les populations qui souffrent, à part les déplacés, à part toute une série de problèmes qui ont été assistés. Et comme on me dit tout à l'heure, l'observateur de notre ami, le docteur, a pas ajouté l'épidémie Ebola. Et Kinshasa s'en fout. Il n'y a pas d'interpellation. Il n'y a pas d'évaluation. Alors, comment voulez-vous que on peut envisager que les choses, parce qu'il y a des négociations, vont s'améliorer? Non.
Merci, professeur Bokobamba. On a compris. Rigan Mubiri, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
J'appelle la partie de Kisangani, Blaise Saïd Atoum. L'attaque des drones armés contre l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, ainsi que les nouvelles violences observées dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, démontrent que la situation sécuritaire en RDC devient de plus en plus complexe. Malgré les négociations et les accords annoncés, les attaques continuent et créent davantage de peur au sein de la population. Cette situation révèle aussi une certaine complicité chez certains compatriotes congolais, où les divisions, les intérêts personnels, les manipulations politiques et le manque d'unité nationale fragilisent davantage les efforts de paix et de stabilité du pays. À mon point de vue, face aux menaces qui touchent même des infrastructures stratégiques comme l'aéroport de Bangoka, les Congolais doivent privilégier l'unité, le patriotisme et la vigilance collective afin de défendre l'intérêt supérieur de la nation et soutenir toutes les initiatives visant le retour durable de la paix.
Rigan Mubiri.
Oui, je respecte le point de vue de l'auditeur et peut-être je le partage d'ailleurs en partie. Mais quand il parle de l'unité nationale et du patriotisme, mais en fait, il faut regarder, malheureusement, il y a de plus en plus de voix pour la division que de voix pour unir. Et il y a aussi de plus en plus des actes qui créent un environnement de division, qu'un environnement d'unité. Je suis aussi convaincu que plus il y aura de gens qui sont convaincus qu'on doit aller vers la paix et que la paix passe par un consensus national, plus il y aura des chances pour la paix. Mais s'il y a encore des gens qui pensent qu'il est possible de gagner la paix en gagnant la guerre, alors là, on sera en train de se tromper. La preuve, c'est les zones occupées par le M23. Le M23 a fait une offensive qui a permis qu'ils puissent prendre la ville de Goma et de Bukavu. Mais est-ce qu'ils ont pu pacifier ces zones-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on sait ça mieux vivre dans les zones occupées par le M23? Donc, c'est très facile de gagner la guerre, probablement, mais c'est très difficile de gagner la paix. Et je pense que c'est le plus grand défi.
Merci, Johnson Ishara Boutaragaza. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa une fois de plus.
Bonsoir. C'est Félix Bakelmananga depuis Kinshasa Gombe. Pendant que les Congolais espéraient voir les engagements du succès des faits produits ou des effets concrets, les ennemis de la paix ont encore choisi la voie des armes, des drones et de la terreur. La RDC ne peut pas éternellement attendre l'humeur de paix pendant qu'à retour, certains préparent des attaques contre nos villes et nos populations. Hommage aux FRDC qui ont écrasé ces drones à Kisangani avant que les pires n'arrivent. La souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Les peuples congolais veulent la paix, mais une paix sincère, pas une stratégie de diversion pendant que les offensives continuent sur le terrain. Comme le disait M. Patrice Lumumba, l'Afrique, grâce à sa propre histoire, et cette histoire ne sera jamais écrite par la paix, mais par la résistance et la dignité du peuple congolais.
Johnson Ishara Butaragaza.
Oui, je viens de suivre mon compatriote, Monsieur Félix, depuis Kinshasa, qui parle des ennemis qui utilisent des drones. Mais je pense que Monsieur Félix, s'il a suivi cette émission, il pourrait retenir que les deux protagonistes ont utilisé les drones de part et d'autre. Eh bien, je suis d'accord que la souveraineté ne se négocie pas. Et j'aimerais qu'on se pose la même question. Est-ce que nos gouvernants sont au courant de ça? Parce que si on négocie pas la souveraineté, on ne se retrouverait pas à Washington. Parce que même quand nous avons suivi le président de la République et tous les communicateurs derrière ces changements de la Constitution, ils ont insinué que pour que nous réussissions cet accord économique de Washington, il y a des dispositions constitutionnelles qu'il faut revoir. Ça veut dire que nous sommes en train de négocier à ciel ouvert notre souveraineté. Donc voilà, c'est une très grande problématique, très cher compatriote Félix. Et ce qui est important ici, je pense que c'est vrai que les armes sont utilisées, mais je pense qu'on les a utilisées pendant... Ça fait déjà plus de 3 ans que nous sommes dans cette guerre. Et si, comme le professeur Bob Kambamba, si c'était une démonstration de force, non. Déjà avec Goma, avec Bukavu, on devrait déjà savoir quelle est la force que l'adversaire a par rapport à nous. Ce n'est pas dans l'usage des appareils, des armes volantes qu'on peut dire que voilà, nous voulons mesurer la force. Nous sommes dans une situation très très grave, M. Guy. Et ce que traversent les habitants d'ici de Kivu, du Nord Kivu, par rapport à cette situation, c'est très très grave. Et je pense que ça devrait plutôt nous envoyer vers un autre chemin où le Congolais, dans l'ensemble, propose une autre alternative aux gouvernants, parce qu'on a l'impression que ça soit Goma, ils sont dans les distractions, les taxes, c'est tous les jours, les intimidations, le fouet, c'est tous les jours, les enlèvements, c'est tous les jours, et à Kinshasa, on a l'impression qu'on a oublié qu'il y avait une guerre qui entrait à déravager nos compatriotes. Il y a des provinces qui sont sous état de siège et qu'on nous a jamais dit jusqu'à aujourd'hui pourquoi ça demeure sous état de siège. Donc on comprend quand même qu'il y a du méli-mélo et merci. Il faut y mettre de l'ordre.
Merci, nous sommes presque à la fin de l'émission. Professeur Bob Kambamba, on va commencer à conclure, et parce que vous estimez, professeur Bob Kambamba, que les deux parties ne sont pas prêtes, n'est-ce pas, à faire la paix. Elles voudraient plutôt continuer avec la guerre. Vous pensez qu'elles ont aussi la possibilité d'entretenir une guerre dans la durée? Ça sera votre conclusion.
Très bonne question. Malheureusement, la continuité de la guerre continue à alimenter les réseaux qui en tirent profit. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Goma, malheureusement. Merci. Et que cette envie, cette revendication et cette est mondiale, qu'il est difficile d'arriver à casser. Et que il faudrait qu'il y ait l'une des deux parties prenne le dessus.
Merci. Merci, Regan Mujuri. Parce que vous estimez que les deux parties n'ont pas la volonté, n'est-ce pas, de mettre fin à la guerre, qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce qui peut les pousser, justement, à s'impliquer de manière active dans le processus de pacification de la RDC?
Je pense que ce sont ceux qui ne sont pas autour de cette table qui peuvent le pousser, c'est-à-dire le peuple. C'est au peuple de pousser ceux qui sont autour de la table, de s'accorder sur les deux protocoles qui les concernent, ça veut dire cessez-le-feu et échange de prisonniers, et puis ensuite que le reste des protocoles soit discuté autour d'une table où il y a inclusivité et tout le monde est là pour parler vraiment des vrais problèmes du Congo, parce que personne d'entre deux parties n'est à même de nous ramener la paix sans inclure en fait le reste de la population, et on ne sait même pas s'ils ont même la volonté de le faire. Merci. Donc il faut forcément une pression qui vienne de l'extérieur de ces deux parties.
Merci. Johnson Ishara, vous allez aussi conclure, hein. C'est quoi l'alternative que vous voulez proposer au gouvernement pour solutionner de façon durable, de façon convenable, n'est-ce pas, cette situation d'insécurité dans la partie est du pays?
Oui, monsieur Guy, je pense qu'il y a deux alternatives. La première, c'est pour le gouvernement, la deuxième, c'est pour le peuple. Pour le gouvernement, je pense que ce que je vais rappeler à ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à Goma, c'est que l'histoire d'une nation est plus grande que l'histoire des individus. Je sais, et nous savons tous, que ce qui fait à ce que cette situation n'avance pas, c'est parce qu'il y a des individus qui sont en conflit entre eux individuellement. Et ils ont décidé de porter l'avenir de notre pays et nous mettre dans le calvaire aujourd'hui. Est-ce que les trois personnes, qui s'assoient Nanga, qui s'assoient Kabila et le président Félix, puissent se retrouver sur une table et parler du Congo? Ça parlait de l'air différent. Voilà. Pour le peuple, je pense qu'il n'y a jamais eu des hommes qui soient plus forts que le peuple. On doit se regarder dans le miroir et qu'on se pose la question, est-ce que nous méritons la situation que nous sommes en train de traverser? Et si nous ne la méritons pas, qu'est-ce que nous devons faire? Et si nous ne la méritons pas, qui doit la changer? Et je pense que c'est le peuple congolais qui doit changer, cessant de courir derrière les hommes en veste, cessant de rester à genoux. On peut se lever et proposer une autre alternative à ceux qui veulent nous garder dans les carcans.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Johnson Ishara Mutaragaza, merci d'être venu ici au studio. Et merci aussi au professeur Bob Kabamba et aussi à Maître Rigen Miviri. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, mais aussi à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Paul Badianyama et Jean-Claude Nsiala qui était à la technique et Shembe Eloku qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.